Au Café Service, une émission au service des populations. Des questions, des essais et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Café Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Merci d'être à l'écoute du magazine Au Café Service. Nous recevons à présent Dr. Catherine Akele, médecin directeur de la pédiatrie des Kalembe-Lembe. Vous savez, le paludisme constitue la première cause de morbidité et la troisième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. D'après les spécialistes, un enfant congolais fait en moyenne 10 épisodes de fièvre paludique par an. La malaria demeure un problème grave de santé publique dans notre pays. Que faire pour protéger nos enfants contre cette maladie meurtrière? Catherine Akele, médecin directeur à la pédiatrie des Kalembe-Lembe, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour docteur.
Bonjour monsieur.
Alors nous parlons de la prévention. Comment prévenir la malaria chez les enfants?
Bon, il y a plusieurs méthodes qui ont été mises en place pour la prévention de cette maladie qui est en fait la première cause de mortalité, de morbidité, de mortalité, en tout cas dans notre milieu ici. Alors pour la prévention, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà le moustiquaire imprimé qui est le moyen le plus utilisé, le plus conseillé maintenant au niveau de notre politique nationale. Il y a l'assainissement du milieu, parce que vous savez que les moustiques qui transmettent la maladie aiment se multiplier au niveau des mares d'eau stagnante. Et donc, si l'environnement est assaini, c'est-à-dire si on enlève tout ce qui est comme saleté, herbe, boîte de conserve et tout ça, il y aura un peu moins de moustiques, donc il y aura un peu moins de malaria. Il y a d'autres moyens aussi. Je crois que à la première ligne, il y a les parents, et surtout la mère, qui doit être très attentive à tous les signes que leur enfant peut présenter. Et que donc la maman doit être capable de savoir quels signes que présente l'enfant peut être la malaria et donc agir le plus rapidement possible. Donc ça, c'est en gros, hein, mais bon. Il y a aussi des médicaments, mais bon, ça c'est en deuxième ligne.
Alors vous êtes dans un hôpital où vous soignez les enfants au quotidien. Alors dites-nous la plupart des cas des enfants qui arrivent là-bas, sous forme de quelle maladie, c'est la malaria.
Oui.
Ceux qui décèdent de plus, c'est la malaria aussi.
Ah oui, justement, parce que on a un service de soins intensifs où on reçoit tous les cas graves. Et j'ai eu le temps de prendre tous nos chiffres de l'année passée, du moins de notre rapport de l'année passée, sur la majorité d'enfants, plus de 1400 et quelques qu'on a reçus en soins intensifs.
En 2011.
En 2011. 56% ont été admis pour paludisme grave. Et de ces enfants-là qui ont été admis pour paludisme grave, 25% sont décédés. Donc à cause de la malaria. Et quand on regarde par rapport à tous les décès en soins intensifs, plus de 60% meurent de malaria. Bon, les autres décès, c'est la diarrhée et puis les infections respiratoires aiguës, mais c'est d'abord la malaria.
C'est d'abord la malaria. Et généralement, quand ces mamans arrivent avec leurs enfants, c'est déjà un stade avancé de la maladie ou bien c'est au début?
Bon, certaines viennent quand l'enfant fait la fièvre un jour ou deux. Et là, quand c'est encore le palud simple, comme on dit, c'est-à-dire la vie de l'enfant n'est pas encore en danger, là c'est mieux parce que bon, le traitement est plus simple et moins coûteux. Mais il y en a quand même malheureusement beaucoup qui viennent en retard. Quand vous demandez, l'enfant avait déjà fait la fièvre depuis deux, trois jours, parfois une semaine. Et cela souvent arrive en paludisme grave, c'est-à-dire que les enfants, le pronostic vital est engagé, donc l'enfant peut mourir ou peut rester avec des séquelles. Et là, c'est des enfants qui viennent avec des anémies sévères, c'est-à-dire que vous savez que ce microbe de la malaria se multiplie à l'intérieur des globules rouges, donc il détruit ces globules rouges. Ce qui fait que l'enfant arrive avec une anémie sévère, on est obligé de transfuser, mais bon, quand c'est trop grave, parfois même quand vous transfusez, il y a déjà des déficits au niveau de tous les organes qui ont besoin l'oxygène véhiculé par les globules rouges, donc les enfants peuvent quand même mourir. Il y a aussi ceux qui font le neuropaludisme, c'est-à-dire que les microbes vont se mettre au niveau du cerveau.
Donc on peut dire que la malaria a plusieurs stades.
Oui, il y a plusieurs stades. Mmh. Donc il y a la malaria simple dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis là j'étais en train de parler de tous les cas graves. Et les plus graves, les plus sévères qu'on rencontre, c'est donc cette forme anémique et la forme neurologique où les enfants convulsent, entrent en coma, parfois ont des signes comme des signes de psychiatrique, des hallucinations. Et on peut dire, ah non, il voit des choses, c'est peut-être des sorciers.
Des sorciers.
Ce n'est que le palud. Ouais. Et ces cas-là, souvent, on a du mal à les traiter. Parce que, bon, déjà, les traitements coûtent beaucoup plus cher. Parce que là,
quand ça atteint le niveau.
Le cerveau, oui, ou quand il y a une anémie, là, il faut traiter par des perfusions, des kinés. Et puis, il y a d'autres, il faut soutenir l'état général. Et c'est souvent des enfants, surtout pour. Le paliforme neurologique qui reste avec des séquelles parfois.
Séquelles par exemple.
Alors c'est des enfants qui, un enfant qui marchait par exemple et qui parlait, qui ne parle plus, qui n'arrive plus à ni se mettre debout ni se mettre assis. Il y a des enfants qui deviennent aveugles.
Ça peut entraîner la paralysie.
Ah oui oui, ça peut entraîner la paralysie, ça peut entraîner la cécité, donc l'enfant ne voit plus, ça peut entraîner la surdité. Un enfant qui n'entend plus ne pourra plus parler, parce que bon, parler, c'est les enfants imitent ce que les autres disent. Et quand un enfant qui n'a jamais parlé n'entend pas à cause de la malaria neurologique, en ce moment-là, il ne parlera pas non plus.
Mmh. Et pourquoi les enfants sont si vulnérables? Ils sont beaucoup, on dit que la malaria tue beaucoup plus les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, pourquoi?
Bon, c'est une question d'anticorps et d'immunité. Cette immunité-là, d'abord, comment on l'acquiert, nous, les adultes, c'est justement à force d'avoir été piqué plusieurs fois, et à la longue, on développe une immunité. Mais c'est pas une immunité qui reste à vie, c'est une immunité d'abord qui n'est pas totale, donc on peut toujours faire la malaria, mais des formes moins sévères, et ça, on peut le faire aussi. Quand vous allez dans un endroit où il n'y a pas de palud, vous restez longtemps, vous n'êtes plus piqué, on perd facilement cette immunité.
Donc les enfants sont plus exposés.
Ah oui.
Le système immunitaire n'est pas bien développé.
Bon, les enfants, ça dépend. Hein. Les enfants, les tout petits, entre la naissance, parce qu'on dit que c'est les enfants entre 4, 6 mois et 5 ans qui sont le plus vulnérables. Les plus petits, les tout petits, donc les nouveau-nés jusqu'à 4, 6 mois, sont protégés par, entre autres, les anticorps maternels. Mmh. Pendant la grossesse, la mère avait quand même des anticorps et qui sont placés chez l'enfant. Il y a le lait maternel aussi qui protège. Donc l'allaitement maternel, ça protège. Il y a les enfants en ce qu'on appelle l'hémoglobine fœtale. C'est une hémoglobine qu'on trouve en grande quantité quand l'enfant est encore dans le ventre et qui diminue petit à petit après la naissance. Et les microbes de la malaria ont du mal à se développer à l'intérieur des globules rouges qui ont cette hémoglobine. Or, il y en a encore une certaine quantité chez les nouveau-nés et ça diminue petit à petit.
Donc, lorsque la mère, il y a certaines femmes enceintes qui souffrent de la malaria, si la mère est malade, l'enfant peut être protégé par cette hémoglobine.
Par cette hémoglobine, par les anticorps aussi, parce que bon, c'est vrai que les femmes enceintes, quand elles tombent enceintes, il y a une certaine diminution de l'immunité. Par rapport à la malaria. C'est dû à son état de grossesse, et ça arrive souvent, surtout chez les primipares, donc les femmes qui sont enceintes la première fois.
Oui.
C'est ce qui explique que les femmes enceintes font souvent des malarias et des malarias sévères.
Mmh. Ouais. Bien, nous parlons de la prévention de la malaria chez les enfants. Catherine Akele, médecin et directeur de la pédiatrie de Calamilé, mais notre invité
est pédiatre aussi.
Et pédiatre, bien sûr. Alors, vous voulez participer, vous avez des questions, des préoccupations. Appelez-nous au 081 890 6394.
Pour s'informer, de plus en plus internet choisit radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Donc Comment prévenir la malaria chez les enfants? Docteur Catherine Aquel et les auditeurs vous suivent de partout à travers la République, et même en dehors de nos frontières, ils sont déjà là. Ils nous appellent pour intervenir, nous allons les accueillir. Gabriel, vous êtes à Kalima, et Patrick à Kinshasa, et Mavé nous appelle de Kananga. Gabriel, bonjour.
Bonjour, monsieur Jésus Daniel Kachamay, bonjour aussi à notre invité qui est sur le plateau, et bonjour à tous les auditeurs qui ont l'habitude de me suivre à Kalima. Des préoccupations, notre type.
Allez-y.
La première, le fait là de donner à l'enfant, c'est ton matin, l'aliment non chauffé, peut entraîner la malaria. La seconde, on a distribué des moustiquaires partout en République démocratique du Congo, et les gens dorment sous les moustiquaires d'un pays. Mais le nombre de la malaria augmente toujours, qui est à la base de vos relations.
Merci Gabriel. Patrick, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ah voilà, c'est monsieur Patrick Malundama. Je voudrais savoir ceci. Est-ce que l'insecticide appelé Toulay ou bien 33 tours, la fumée dégagée par cet insecticide ne peut pas provoquer des maladies telles que le cancer, etc.
Bon, nous parlons aujourd'hui de la malaria, monsieur Patrick. Bon, je sais que...
C'est justement l'insecticide utilisé pour éviter les moustiques.
Pour chasser les moustiques, ouais. Oui. Une autre question, c'est tout?
Bon, de même aussi, il y a le moustiquaire imprégné aussi, un produit qui n'est pas dangereux, ou ce produit n'est pas dangereux, ça je ne sais pas, mais est-ce que ce produit aussi imprégné dans ce moustiquaire ne peut pas provoquer à la longue le cancer, ainsi de suite?
Merci Patrick. Mavé, vous êtes à Kananga, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Merci, je dis bonjour à tous les auditeurs qui sont en France avec les gens sur Facebook ou sur le podcast. J'avais une question à poser à notre invité. On s'est dit savoir. Très souvent, il y aurait une enfant que lorsque l'enfant atteint la période de la première étape de la poussée des dents, il commence à faire sensiblement la fièvre et là, la diarrhée incontrôlée, etc. Des fois, il y aurait manquant au niveau de la tête seulement, ou peut-être au niveau de la tête, une fièvre très sensible qu'on ne pourra pas vraiment détecter les quelques facteurs qui peuvent être à la base. Mais on ne sait pas, je voulais juste demander à notre invité. L'enfant, lorsqu'il pousse les dents, en fait, la première période, toutes les facteurs que je énumérerai là-dessus, est-ce que peuvent être aussi les éléments qui peuvent être incarnés dans une remarque ou soit une situation qui peut provoquer ou occasionner la malaria? Et je voudrais savoir que, des fois, nous avons toujours l'habitude de constater que lorsque l'enfant commence à pousser les dents dès la première période,
les
éléments que j'ai cités là-dessus sont beaucoup remarqués. Est-ce que ce sont aussi les facteurs dus à la malaria ou pas? Et comment on peut-on intervenir avec médicaments sensiblement qui peuvent écarter ou soit épargner l'enfant tant ces étapes ou soit ces pléos?
Merci de nous avoir appelé depuis Kananga. Docteur Raquel, vous avez suivi. Gabriel de Kali m'a dit, est-ce que les aliments non chauffés, quand on donne aux enfants les aliments non chauffés, est-ce que ça peut favoriser la malaria?
Bon, la malaria, on sait comment c'est transmis. Hein. C'est par les piqûres de moustiques anophèles semelles. Ce n'est pas les aliments. Les aliments non chauffés, ce que ça peut entraîner, c'est peut-être la diarrhée, si ça n'a pas été bien protégé et que... Nous vivons dans un milieu où il fait très chaud, il peut y avoir des microbes qui peuvent entraîner la diarrhée, mais pas le palu.
Alors, il dit aussi qu'il y a eu plusieurs campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés à travers le pays, mais malgré cela, le nombre d'enfants malades continue à augmenter. Comment expliquez-vous ce problème?
Le moustiquaire imprégné, quand on les donne, déjà, ça doit être utilisé, ça doit être bien utilisé. Donc, ça doit être bien positionné autour du lit de l'enfant ou des personnes qui dorment en dessous. Parce qu'il y en a qui les ont, mais qui ne les utilisent pas, ou bien qui les vendent, je ne sais pas, ou qui les utilisent mal. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas que le moustiquaire imprégné pour se protéger de la malaria. Il faut aussi assainir son milieu, ne pas laisser de la saleté ou de marre d'eau autour de sa parcelle ou dans la ville.
Alors comment utiliser cet moustiquaire?
Bon, le moustiquaire, il faut déjà quand on l'ouvre, il faut le laisser à l'air. Mmh. Hein, bon, c'est écrit hein, sur l'emballage. Et puis, bien le positionner autour du lit pour que le moustique ne trouve pas d'endroit par où passer pour entrer. C'est le problème, en fait, c'est d'empêcher le moustique d'entrer pour piquer. Et quand il se pose dessus, vu que c'est imprégné d'insecticide, il meurt aussi.
Mais avant d'installer le moustiquaire, il faut le laisser à l'air libre pendant combien de temps ?
Pendant 24 heures.
Pendant 24 heures. Oui. Voilà. Et Patrick de Kinshasa qui dit 33 tours. Hein, ouais. Les gens utilisent les 33 tours, qui c'est une sorte d'un produit en forme circulaire qui, lorsqu'on allume, ça dégage de la fumée qui chasse les moustiques. Les moustiques, est-ce que ça peut, d'après lui, est-ce que ça peut causer un jour le cancer ?
Bon, si ça peut causer le cancer, moi je ne peux pas répondre à cette question. Là, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je sais que c'est un insecticide. Bon, le problème avec ça, c'est peut-être la fumée que ça dégage. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent être allergiques à la fumée et donc développer des problèmes respiratoires. Mais quant à son innocuité ou bien sa dangerosité, ça, je ne pourrais pas vous répondre.
Oui. Et puis, Patrick dit, est-ce que le produit qui est dans le moustiquaire peut provoquer la malaria ? C'est un produit qui est...
Si c'est dangereux.
Si c'est dangereux, voilà.
Bon, c'est un insecticide. C'est des produits qui ont été testés par l'OMS, par même dans notre pays, ça a été testé. Et c'est un produit qui n'est pas dangereux. C'est un produit qui n'est pas dangereux pour l'homme.
Voilà. Mabé de Kananga, il dit, lorsque l'enfant pousse les dents, il y a la fièvre, il y a la diarrhée. Est-ce que tout cela peut favoriser la survenue de la malaria ?
Bon, que ça favorise la survenue de la malaria, non. En fait, ces signes-là, ce sont aussi les signes de la malaria. Donc la malaria, les signes, c'est notamment la fièvre. Les grands enfants disent qu'ils ont mal à la tête, il y a... des courbatures, donc on sent comme si on avait mal partout. Mmh. Mais bon, les enfants, les tout petits, ils ne s'expriment pas, mais on sent qu'il y a la fièvre quand même. Et il y a aussi parfois des signes digestifs, notamment la diarrhée, les vomissements en cas de malaria. Mmh. Alors, les enfants qui font une éruption dentaire, ça peut provoquer de la fièvre, mais souvent c'est des toutes petites fièvres qui n'arrivent pas, qui ne dépassent pas 38. Et quand, dans notre milieu, étant un milieu d'endémie pour la malaria, il faut d'abord penser à la malaria au lieu de penser à une poussée dentaire. En sachant aussi que les dents commencent à pousser pendant la période où justement les enfants ne sont plus protégés par l'immunité qu'ils avaient à la période néonatale jusqu'à 4 mois, 6 mois. Mmh. C'est souvent vers 6 mois, 12 mois que les dents surgissent. Et c'est aussi cette période-là où les enfants sont plus vulnérables aussi pour la malaria. Donc, quand l'enfant fait de la fièvre, il faut l'emmener directement dans un centre de santé pour qu'on voit si c'est la malaria. Quand on élimine...
Il ne faut pas recourir à l'automédication.
Pas d'automédication parce qu'on ne sait pas. Quand vous faites l'automédication, qu'est-ce que vous donnez ? Et les médicaments qu'on donne aux enfants, il y a des posologies bien précises par rapport à leur poids, à leur âge. Et quand vous donnez comme ça, vous pouvez donner ou bien trop peu, ou bien trop au risque d'intoxiquer les enfants.
Mmh. Ouais. Des questions de préoccupation, composées de 081-800-63-94, le standard, est déjà ouvert. KBA, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi, et Anif se trouve à Bukavu. KBA, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup Radio Kati. J'avais deux préoccupations avec notre interlocuteur.
Oui, quelles sont ces préoccupations?
Je voulais lui demander, moi j'ai un garçon de 10 ans, mais très souvent ce garçon ne fait jamais de fièvre, n'a pas de signes de fièvre, mais à un certain moment, vous voyez que c'est vraiment en train de jouer avec les autres, les réveils, vous dites papa j'ai le mal de tête, et pendant que vous pensez chercher le mal de paracétamol. Donc vous voyez que l'enfant fait une crise et commence à convulser. Vous l'amenez dans un centre, après les examens, on trouve tout simplement qu'il a des malaria, des niveaux cérébral. Et dès qu'il est perfusé, il retrouve la forme. Mais là, je voulais demander à notre interlocuteur, c'est la pédiatre qui est là, à des enfants pareils, comment prévenir ? C'est ça, la première question. Mmh. Et la deuxième préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent conseiller au gouvernement pour que les moustiquaires imprégnés arrivent réellement aux gens. Parce que ici à Lubumbashi, du côté Raden, on nous a dit qu'il fallait aller prendre les moustiquaires. Mais quand nous arrivons, on nous dit qu'il n'y en a pas, c'est terminé. Mais qu'est-ce que ça après? Ces mêmes moustiquaires, nous commencerons à les acheter au marché étalé, c'est-à-dire qu'ils commenceront à nous vendre à 1500 francs.
Mmh.
C'est une disposition qui peut vous conseiller à l'État pour que ces moustiquaires arrivent réellement au destinataire.
Merci, merci Kabeya de Lubumbashi. Anita, vous êtes à Bukavu, au Sud-Kivu, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Anita.
Ok, je voulais savoir, pour ceux qui vont fermer les signes pour l'enfant, est-ce que ça doit nécessairement être les fièvres pour l'enfant, comme après leur occupation,
Un signe de la maladie.
Et puis, la deuxième, je voulais savoir, je n'ai pas bien écouté quand l'invité a dit, que la femme enceinte se prie pour une première part. C'est ça qu'elle tombe parfois chaque fois. Donc, elle tombe malade chaque fois de la malaria. J'ai pas bien compris. C'est pourquoi.
Bien, merci Anita, docteur Akeli.
Oui, je vais d'abord répondre à M. Kabeya par rapport à son enfant de 10 ans qui ne fait pas de fièvre et souvent c'est des maux de tête et puis
convulse.
Bon, je crois que chaque organisme est différent et réagit différemment par rapport aux attaques des microbes. C'est vrai que parmi les signes les plus fréquents, on a la fièvre. Des maux de tête, comme on l'a dit, il y a d'autres signes aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne font pas de fièvre, mais qui ont quand même leur malaria et qui peuvent, comme cet enfant-là, convulser parce que ça a déjà, les microbes étaient déjà là, ça a eu le temps de se développer et d'entraîner ces cas de malaria, bon, un peu sévère. Ça peut être l'enfant a convulsé parce qu'il a fait un neuropalu, ou bien il y a des enfants qui ont aussi un seuil de convulsion assez bas. Quand le cerveau est irrité, aussi bien par la fièvre ou par ce microbe de malaria, l'enfant se convulse. Donc je crois que pour ce genre d'enfant, les parents doivent être attentifs, lui faire faire des contrôles réguliers, de la goutte épaisse, en sachant que bon, la goutte épaisse peut parfois être négative, surtout si les microbes vont surtout se concentrer au cerveau, on peut ne pas voir avoir un goutte épaisse positif, mais l'enfant a quand même fait sa malaria.
Donc, il y a des examens beaucoup plus.
Bon, il y a des examens plus sensibles, dans un examen qu'on appelle la PCR, mais bon, qui commence seulement à arriver dans notre pays. Mais donc, les parents, dans ces cas-là, doivent être attentifs, faire contrôler régulièrement la goutte épaisse de leur enfant et commencer à le faire traiter dès qu'il y a une goutte épaisse positive ou bien dès que l'enfant commence à se plaindre un peu de maux de tête. Il faut qu'ils aillent déjà le faire soigner.
Voilà, il est revenu également, il a parlé des moustiquaires imprégnés. Et souvent, quand il va chercher ses moustiquaires, qu'on distribue gratuitement, il n'y a plus de moustiquaires en stock, mais quelques temps après, on les retrouve sur le marché à 1500 francs congolais.
Oh, moi, je ne peux pas répondre à une telle question. Hein. Je crois que c'est au niveau aussi bien du gouvernement provincial, comme lui, il est à, je ne sais pas où il est,
à Lubumbashi.
Il faut qu'il voit directement à leur niveau et qu'il aille protéger auprès du ministère, je ne sais pas, de la santé là-bas, pour qu'on voit comment, par quel moyen, ces moustiquaires arrivent au marché. Moi, je ne
savais pas quoi. Ok, Ali, pas de bouquin, vous, parle de la fièvre, ici, la fièvre chez l'enfant, c'est un signe majeur de la malaria.
C'est vrai que c'est un signe majeur et c'est un signe d'appel, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tous les enfants ne font pas la fièvre d'emblée. Il y a même des enfants comme celui dont on a parlé ici, qui convulsent, c'est quand ils arrivent à l'hôpital, c'est en ce moment-là qu'en mettant le thermomètre, on sent qu'il y a la fièvre. Il y a aussi des enfants qui, au toucher, quand vous touchez à la main, il n'y a pas de fièvre, mais quand vous mettez un thermomètre, vous voyez que le thermomètre indique qu'il y a quand même la fièvre. Mais c'est pas le signe, il n'y a pas que ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'autre signe, il y a la fatigue, un enfant qui perd son appétit, qui peut faire la diarrhée, qui peut vomir, qui n'est pas bien. Donc tout ça, chaque parent, surtout chaque maman, doit savoir connaître un peu son enfant, quand il est bien et quand il n'est pas bien, et pouvoir s'en occuper rapidement.
Bien, avant de prendre de recueillir la question de James, Nipa est revenue. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle est finie par les femmes qui accouchent la première fois développent souvent la malaria. Je veux savoir pourquoi.
Bon, c'est en général les femmes enceintes, comme j'avais dit, qui, quand elles sont enceintes, voient leur système immunitaire diminuer un peu. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à bien se défendre contre beaucoup d'infections. Elles sont facilement, comme on le sait, des infections urinaires. Et elles font aussi ces infections enfin, par la malaria. C'est une question d'immunité, comme j'ai dit, hein, due à son état de grossesse. Mmh. Bon, là, on ne peut pas entrer vraiment dans les détails, c'est un peu plus compliqué. Bon, pourquoi les premiers pas ? Ça, c'est l'observation. On a remarqué que c'était surtout les femmes qui étaient enceintes la première fois qui faisaient des paludismes graves, mmh. alors qu'au cours des grossesses suivantes, elles font un peu moins de crises de malaria.
Bien. James, vous êtes à Kisangani, bonjour. James, vous êtes en ligne depuis Kisangani, bonjour. Bien, désolé, James n'est plus en ligne. Et quelques auditeurs nous ont écrit sur la page Facebook du magazine Okapi Service, Ticha Kalonji de Lubumbashi dit ici, pour lutter contre le paludisme, nous devons assainir notre entourage, c'est-à-dire nettoyer les caniveaux, éviter les ordures autour de nos maisons, utiliser un moustiquaire si possible, la saleté amène les moustiques et les moustiques amènent le paludisme. Bekananga, un autre auditeur nous écrit, lui, pour lutter contre le paludisme, nous devons d'abord assainir le milieu où nous vivons, donc éviter les herbes, les restes alimentaires, les eaux stagnantes, et ces derniers constituent le milieu des cultures pour les plasmodium falciparum. Voilà, ce sont là les avis de ces auditeurs. Et je pense qu'ils ont raison, docteur.
Oui, ils ont raison, parce que il y a eu des pays, il y a même des pays d'Europe où il y a eu la malaria dans les siècles passés, mais ils sont arrivés à assainir leur milieu, à assécher les marais où il y avait des eaux stagnantes, à avoir une certaine, comment dire, une politique de propreté, d'assainissement. Et ça fait que la malaria a disparu dans ces milieux-là. Et je crois que ça, c'est vraiment la première lutte que nous devrions mener si on veut se débarrasser du paludisme. Mmh. C'est cette lutte-là contre l'insalubrité.
Les enfants doivent dormir tous les jours sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides.
Ah oui! Surtout les tout petits qui sont encore dans la période où ils sont sensibles à la malaria. Il faut qu'ils dorment. C'est vrai que, bon, comme on l'a dit, le fait d'être piqué, ça fait que l'enfant développe des anticorps, des anticorps pour se protéger plus tard contre la malaria. Mmh. Et bon, ils sont quand même piqués quand ils sont en dehors de leur moustiquaire, mais on est beaucoup plus piqué quand on dort pendant la nuit. Et en ce moment-là, on ne peut pas non plus se protéger, chasser le moustique et tout. Mmh. C'est pour ça que le fait, et plus on est piqué, plus on a des microbes, et plus on peut faire la forme grave. C'est pour ça qu'il est important pour les enfants, surtout, et les femmes enceintes, de dormir sous le moustiquaire.
Bien, merci docteur Catherine Kelly, pédiatre et médecin directeur à la pédiatrie de Calendeline. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci à vous.
Okay.